Europe Soir,
Céline Géraud.
Allez, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous êtes sur Europe 1, il est 18h34. On va parler évidemment des sujets qui font l'actualité. Et au sommaire de cette prochaine demi-heure, le scandale d'État ou fausse polémique. Emmanuel Macron aurait aidé le géant américain de VTC Uber à s'implanter en France alors qu'il était ministre de l'économie. Des investigations qui ont suscité de vives réactions du côté de la classe politique. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée, ce soir à 21h30, les députés vont examiner le projet de loi sanitaire. Quels sont les enjeux de ce plan pour freiner la propagation du Covid-19? On en parle, mais tout de suite, on va revenir sur cette motion de censure déposée par la NUP contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Et pour en débattre dans le studio ce soir, j'accueille Stéphane Zumsteg, directeur du département Opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Bienvenue à bord, merci d'être là. Et puis Alexandre Chauveau, notre journaliste du service politique d'Europe 1.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Salut Alexandre. Alors je le disais, voilà, cette motion de censure, hein, un vote de défiance qui a très peu de chances d'être adoptée. Elle est discutée en ce moment dans l'hémicycle depuis 16h. Alors on retrouvera Victor Chabert dans quelques instants. Mais on va écouter tout de suite, si vous le voulez bien, la réaction d'Elisabeth Borne. C'était tout à l'heure dans l'Assemblée, écoutez.
J'ai lu attentivement le texte de votre motion de censure, mais là encore, aucune proposition. J'ai écouté Madame la Présidente Panot, votre discours, avec la plus grande attention, et rien, toujours rien. L'avenir en commun a été remplacé par l'invective en commun. La motion de posture a remplacé la motion de censure.
La motion de posture a remplacé la motion de censure. On va retrouver, tiens, Victor Chabert qui est en direct avec nous ce soir à l'Assemblée nationale. Bonsoir Victor.
Bonsoir Céline, bonsoir.
On sent que voilà, les débats sont vraiment mouvementés. Hein. Il y a de l'ambiance ce soir dans l'hémicycle depuis 16h.
Oui, un hémicycle survolté, même cet après-midi, avec de multiples passes d'armes. Tout d'abord, Mathilde Panot, qui présentait la motion de censure au nom de la France insoumise. C'est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Et elle a attaqué la légitimité d'Elisabeth Borne, selon la chef de file de la France insoumise, après l'échec de la majorité aux législatives, après le refus de la première ministre de se soumettre à un vote de confiance. Elle est une anomalie démocratique. Dans la foulée, Elisabeth Borne, au pupitre, dénoncer une motion de posture, rappelant que ce n'était pas celui qui avait le moins de voix, le moins de sièges, qui était le plus légitime pour gouverner. Autre passe d'armes entre le RN et la NUPES. Le député de la Moselle, Alexandre Loubet, en a profité pour régler ses comptes avec l'Union de la gauche. Vous savez qu'il y a une bataille pour savoir qui sera la première opposition aux yeux des Français entre la NUPES et le Rassemblement National. Lui a expliqué qu'il ne fallait pas compter sur les voix du RN pour apporter un soutien au projet de déconstruction de la NUPES. Les députés sont en train de voter actuellement. Cette motion de censure ne va pas passer, c'est arithmétique. Seuls les députés NUPES vont la voter, pas le RN, pas LR, donc seulement 147 députés. Il en faut 289 pour obliger Elisabeth Borne à démissionner.
Merci Victor Chabert, en direct de l'Assemblée. Stéphane Zumsteg, je vous pose la question, motion de censure, motion de posture, voilà, c'est la cosmétique, mais qu'en pensez-vous ?
C'est un peu les deux, et c'est de la politique, c'est normal, il faut se mettre à la place de la NUP, de la NUPES, de ses 150 députés. Son objectif, c'est de montrer qu'il n'y a qu'une seule véritable opposition à l'Assemblée nationale, que ce n'est pas le cas des Républicains, que ce n'est pas le cas du Rassemblement national, puisqu'ils ont fait le choix de ne pas participer à ce vote de censure. La stratégie, elle est claire, elle est assumée. Et après, moi, j'entendais effectivement le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, parler de motion de posture, mais dans l'histoire de la Ve République, il y a eu plus d'une centaine de motions de censure. Il n'y en a qu'une seule qui est passée en 1962 contre Pompidou. Mmh. Donc dans 99% des cas, elles échouent, ces motions de censure. Ce n'est pas ça qui les rend illégitimes. Mmh. Je trouve que l'argument du gouvernement est un peu court, en fait. Il n'y a pas eu de vote de confiance de la part d'Elisabeth, de demande de vote de confiance de la part de la Première ministre. L'opposition, et en l'occurrence l'opposition de gauche, essaye de jouer son rôle et de bien montrer qu'il y aura une opposition intraitable, déterminée à changer de gouvernement, à faire chuter le gouvernement. Ce ne sera pas possible pour des raisons que votre journaliste a évoquées là, mais je comprends parfaitement leur position. Là encore, je le répète, l'enjeu, c'est entre la NUPES et le Rassemblement national, d'apparaître comme la principale force d'opposition. Et là, ce que tente la NUPES, c'est de cornériser la droite et l'extrême droite en montrant, regardez, vous êtes les alliés objectifs d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, puisque vous allez vous abstenir, plus exactement, vous n'allez pas participer au vote, il n'y a qu'un seul véritable groupe d'opposition, c'est nous.
Alexandre Chauveau.
Il y a ça, et il y a aussi la question de montrer la solidité de l'alliance
Ça va sans doute être réussi. Là, le vote est en train de se terminer. Ils ont 151 députés. Il y en a 150 qui vont voter la motion de défiance. Après, une fois qu'on a dit ça, effectivement, eux, ils veulent revendiquer ils revendiquent le leadership de l'opposition. Ce n'est pas du tout le cas du RN. La conséquence de ça, c'est sans doute qu'Elisabeth Borne, par un jeu de billard à trois bandes, va sortir renforcée de cette séquence, à savoir que le gouvernement n'a pas eu une majorité, Emmanuel Macron n'a pas eu une majorité absolue. La première ministre n'a pas sollicité le vote de confiance. Et à l'issue de ça, grâce ou à cause de la NUP, elle va sortir légitimée de cette motion de défiance qui ne va pas être votée. Après, la forme, on a vu, c'était un peu la deuxième épreuve du feu pour Elisabeth Borne après son discours de politique générale mercredi. On voit qu'elle a été à nouveau chahutée par la NUP.
Particulièrement chahutée, ouais.
Et on voit aussi qu'elle commence à prendre un certain plaisir. Elle avait esquissé un peu lors de son discours de politique générale, mais on l'a vu sourire, on l'a vu envoyer deux, trois pics à la NUP. Si on compare quand même à ses prédécesseurs, on peut quand même penser assez objectivement que c'est plus faible, qu'il y a moins de vision, moins de souffle, moins d'envergure, mais elle a été nommée par Emmanuel Macron pour trouver des majorités de compromis, selon l'expression consacrée maintenant. Mmh. Et on peut penser qu'elle peut mener à bien sa mission, à savoir trouver des compromis avec les principales oppositions sur 3, 4, 5 textes qui vont dans l'intérêt général du pays.
Ouais, Olivier Véran, un nouveau porte-parole du gouvernement, qui déclare aussi que c'est une motion de posture. Pourquoi ? Il dit que ce serait la négation de la culture du compromis que nous demandent les Français. Stéphane Soustegg.
Oui, alors là, je suis d'accord avec ce qu'il dit. En fait,
parce qu'il a une posture, il a rajouté la négation. C'est pour ça que l'un sans l'autre, c'est pour ça que je vous permets de revenir vers vous là-dessus.
Oui, vous avez raison. L'avantage, la situation un petit peu confortable dans laquelle se trouve aujourd'hui Elisabeth Borne, c'est la formidable pression sociale des Français à l'égard de leur classe politique. Ça peut paraître paradoxal, le fossé ne cesse de se creuser entre les Français et leur politique, l'abstention progresse scrutin après scrutin, malgré tout, dans ce contexte très particulier de forte abstention et donc de menace pour le pouvoir d'achat, les Français attendent des politiques, ça veut dire du gouvernement, comme des oppositions, qu'elles soient de gauche ou de droite, qu'ils s'entendent à l'Assemblée nationale, qu'on trouve des compromis. Et surtout sur ce thème du pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce qu'ils font le pari que si l'Assemblée est bloquée, eh bien ça signifiera une sorte d'inaction, d'inertie, et que les décisions à prendre en matière de sauvegarde du pouvoir d'achat ne seront pas prises. Ils ne trouvent pas pour l'instant des responsables. Est-ce que c'est de la faute du gouvernement ? Est-ce que c'est de la faute de la NUPES ? Est-ce que c'est de la faute de la droite ? On n'en est pas encore là. En revanche, il y a une vraie exigence, et c'est assez nouveau, de la part des Français et des Françaises, qu'une solution, qu'un déblocage soit assuré à l'Assemblée nationale.
Mmh. La gauche unie, qui tente de montrer, avec cette motion de censure, qu'elle est la véritable opposition, mais est-ce qu'elle ne montre pas aussi, quelque part, ses premières fissures, ses premières fragilités ?
En l'occurrence,
il y a quelques socialistes dans le groupe qui ne sont pas favorables à cette motion, en tout cas qui ne vont pas la voter.
On ne sait pas. On vient d'apprendre qu'on a une première alerte comme quoi la motion vient d'être rejetée. Normalement, ce qui avait été prévu, c'est que les 150 députés sur les 151 qui composent la NUP la votent. Donc, à ce stade, en tout cas, il n'y a pas de fracture. Après, on verra sur la longueur du quinquennat, sur les différents textes qui seront proposés par le gouvernement sur des questions de laïcité, de nucléaire, d'Europe. Là, il y aura effectivement des fractures, mais sur la question du pouvoir d'achat, et on en parlera tout à l'heure sur la question, par exemple, du projet de loi passe sanitaire, a priori, il devrait y avoir quand même une certaine unité au sein de la NUP.
Stéphane Soustegg.
Oui, absolument. Mais de toute façon, la pression sur ces 150 députés, sur les 151 éventuellement concernés, elle est très forte. Il faut rappeler les modalités du vote. Ce n'est pas un vote à bulletin secret dans l'hémicycle. C'est si vous décidez de voter cette motion de censure, c'est organisé dans une pièce à côté, dans une salle à côté, et ne vont voter que les gens qui souhaitent censurer le gouvernement. Donc vous êtes quelque part repéré si vous ne jouez pas le jeu de la discipline de votre groupe. Donc de toute façon, il y aura une très forte participation sur ces 150 députés. J'imagine mal des défections, alors même que cette union électorale, rappelons-le, la NUPES, ce n'est pas une union politique, c'est une union électorale pour gagner des élections législatives. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour voir des vraies fractures. Il y a évidemment, notamment au sein du groupe socialiste, des gens qui s'interrogent. Alors ce sont des raisons, pour des raisons idéologiques, en se disant que quand on est du centre-gauche, on n'a pas à s'opposer forcément systématiquement, frontalement au parti présidentiel. Mais là où les vraies fissures commenceront à apparaître, c'est quand les trois partis, on va dire, mineurs de la coalition, les communistes, les écologistes et surtout les socialistes, considéreront que l'hégémonisme de la France insoumise est trop forte.
Ouais, on l'a entendu tout à l'heure, la première ministre a assuré que la motion censurait plutôt que de faire des propositions. Écoutez ce que lui répond Michel Tabarot, député Les Républicains des Alpes-Maritimes.
Madame la Première ministre, nous sommes une opposition lucide sur tous ces sujets. Mais nous sommes aussi une opposition responsable. Comme l'a dit le président Marleix en réponse à votre discours de politique générale, il n'y aura jamais de blocage stérile. Notre seule boussole est et restera l'intérêt de la France et des Français. Alors si, comme vous le dites, vous voulez vraiment trouver des majorités de projets, il va falloir changer de méthode. Il faudra rompre avec l'arrogance et le mépris qui nous ont été réservés pendant le précédent mandat.
Voilà la réaction effectivement de Michel Tabarot, député des Républicains, qui taxe le gouvernement d'arrogance, clairement.
Oui,
Alexandre Chauveau.
LR est dans sa stratégie, dans le prolongement de ce qu'avait dit Olivier Marleix la semaine dernière à l'Assemblée, ni arrangement ni compromission. C'est-à-dire que LR n'est pas là pour bloquer, je parle selon leurs termes, n'est pas là pour bloquer le pays, mais eux, ils veulent absolument que leur voix soit entendue, ce qui serait une rupture avec ce qui a été fait pendant 5 ans par Emmanuel Macron et les différents gouvernements. Le Parlement a été assez objectivement méprisé. Et maintenant, paradoxalement, alors que les Républicains ont perdu une quarantaine de députés, ils vont être d'autant plus entendus parce que ça représente, avec l'aile modérée de la NUP, en gros les socialistes, ça représente un des partis de gouvernement à l'Assemblée avec qui il est possible de trouver des compromis. Donc voilà.
Et justement, le Rassemblement national, bah tiens, on va écouter Olivier Faure, hein, premier secrétaire du Parti socialiste député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne, qui parle justement de ses alliances.
Voici venu le temps de la clarification. Cette motion permettra à chacun de se situer et de faire apparaître une vérité qui n'est pas utile de masquer plus longtemps aux Françaises et aux Français. Il y a une opposition, celle composée par cette coalition de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il y a une majorité relative, la vôtre, Madame la Première ministre. Il y a aussi une majorité tacite, celle que vous formez avec les Républicains. Et il y a même le risque d'une majorité d'opportunité que vous formerez avec le Rassemblement national. Vous pouvez hurler, ce n'est pas moi qui ai inventé les mots de M. Dupond-Moretti, de M. Bayrou, de Mme Calvez et autres, qui ont même exprimé une préférence pour l'extrême droite plutôt que pour la gauche. C'est inédit dans l'histoire de la République, vous êtes les premiers à le faire. Alors effectivement, taisez-vous maintenant.
Voilà, il est monté dans les aigus assez vite, Olivier Faure. Voilà, il y a vraiment le Rassemblement national, même s'il a été dédiabolisé quelque part pendant cette campagne présidentielle avec l'arrivée d'Éric Zemmour, ça a changé la donne quand même. Hein.
Ça a changé la donne, oui, c'est vrai que c'est 89 députés, personne n'aurait pu imaginer ça, c'est un groupe extrêmement puissant, mais ce qui est vraiment remarquable quelque part, c'est que le Rassemblement national a très peu fait campagne pour ces élections législatives. Rappelez-vous, au tout début de la campagne pour les législatives, après les résultats de l'élection présidentielle, Jordan Bardella explique que s'il a un groupe, ce sera déjà une victoire. Mmh. Un groupe, c'est 15 députés. Donc ils étaient extrêmement, non pas pessimistes, mais en tout cas modestes dans leurs ambitions et dans leurs objectifs. Ils ont réussi, ils ont un groupe très puissant. Ce qui est aussi remarquable, c'est cette stratégie, alors pas de dédiabolisation, parce qu'elle est en cours depuis plusieurs années, cette dédiabolisation du Rassemblement national, mais de respectabilité. En gros, nous reconnaissons que nous avons perdu les élections législatives, ce qui est vrai arithmétiquement, mais ce qui est une très belle victoire malgré tout pour le RN avec ses 89 députés. Nous ne voulons pas faire de l'obstruction pour de l'obstruction. On est vraiment là dans une stratégie NUPES contre RN, les deux s'accusant finalement les uns de bloquer. Le RN accuse la NUPES de bloquer inutilement et la NUPES l'accuse de collusion avec le pouvoir en place. Je ne pense pas que cette stratégie du RN durera très très longtemps, parce que surtout si la NUPES continue à être aussi active, aussi virulente, aussi implacable quelque part avec le gouvernement, il faudra bien que le RN, que Marine Le Pen, que Jordan Bardella répondent aux attentes de leur propre électorat. L'électorat RN aujourd'hui, c'est l'électorat le plus en colère en France. Donc il peut se satisfaire des résultats de ses députés, enfin aux élections législatives, de ce très bon score de la formation de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Mais il y a un moment donné, ce sont des Français et des Françaises en colère, ils vont vouloir aussi que leurs députés, que leurs leaders soient au moins aussi remuants et aussi bruyants que ceux de la gauche.
En attendant, vous le disiez tout à l'heure, Alexandre Chauveau, hein, cette motion de censure a été rejetée à l'Assemblée. Plus de détails tout à l'heure. Hein, dans
146 députés ont voté contre. Ça veut dire qu'il y a quand même 5 abstentions côté NUP.
Voilà.
Mais c'est pas beaucoup.
Et on en parlera évidemment dans le journal de 19h avec Alexandre Lemaire. L'autre événement aujourd'hui, hein, c'est l'affaire des Uber Files, une enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation qui révèle comment la société californienne Uber est parvenue à s'implanter un peu partout dans le monde grâce à un énorme travail de lobbying auprès de personnes influentes, notamment en France, où la réglementation, on le sait, est très stricte. Entre 2014 et 2016, la société de VTC aurait pu compter sur un allié de poids, Emmanuel Macron, qui est alors ministre de l'économie. Au total, 17 échanges de SMS entre Emmanuel Macron et le patron d'Uber et de son lobbyiste ont été répertoriés dans cette enquête. Alexandre Chauveau, faire sauter les verrous réglementaires pour permettre à une société américaine de s'implanter, est-ce que c'est un scandale d'État ou une fausse polémique ?
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage entre le ton du papier donc, qui est sorti dans le monde et les véritables... Enfin, en fait, à chaque ligne, on a le sentiment qu'il va y avoir des révélations fracassantes à la ligne suivante et décalage par rapport aux révélations réelles qu'il y a dans le papier. Ce qui interpelle forcément le grand public, c'est la découverte de l'immense travail de lobbying des grandes entreprises, Uber en l'occurrence, qui effectivement... donne clé en main et rédige clé en main des amendements à des députés pour qu'ils les soumettent au Parlement. Ça, c'est une pratique qui est méconnue de l'opinion et qui forcément interpelle, mais il n'y a rien d'illégal. La question, c'est de savoir s'il y a des contreparties, si Emmanuel Macron a bénéficié de contreparties. En l'occurrence, c'est là-dessus que l'enquête ne débouche sur rien, parce qu'à ce stade, personne n'a démontré qu'Emmanuel Macron avait reçu de près ou de loin des contreparties en aidant Uber à s'implanter en France. Je trouve que, alors évidemment, ça peut être critiqué, mais autant on reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir de colonne vertébrale idéologique, autant là-dessus, il a été élu en 2017 sur un programme pro-entreprise assez libéral. Et lui a toujours dit que Uber avait fait plus en quelques années, que pour les banlieues, j'entends, que des décennies de politique sociale qui n'avaient abouti à rien. Lui, il pense que le marché et l'économie peuvent sortir les gens de la misère, de la précarité, etc. Alors la précarité, on y retombe a posteriori avec Uber, mais je trouve que politiquement, c'est cohérent. Après, sur les pratiques, évidemment, ça peut être critiquable. L'Élysée se défend en disant que c'est le travail d'un ministre de l'économie de recevoir tous les chefs d'entreprise, que toutes les réunions ne sont pas forcément à l'agenda. Et la majorité est vent debout derrière son chef en expliquant que ce sont des pratiques normales en tant que ministre de l'économie.
Stéphane Zumsteg, sur ce sujet, selon vous, c'est un véritable scandale d'État, une fausse polémique ? Est-ce que le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, a dépassé le cadre de son rôle ?
Non, en l'état des connaissances,
en créant des liens
avec l'état des connaissances qui sont les nôtres, on ne peut pas parler de scandale d'État. Je pense que ce serait très exagéré. C'est une polémique. Ça rappelle quand même assez furieusement l'affaire McKinsey, même si la différence,
McKinsey,
c'est que...
McKinsey, elle est conseil,
faire des conseils. Sauf que... Donc avant les élections législatives, même avant l'élection présidentielle, sauf que là, Emmanuel Macron est cité nommément. Ça a été un intervenant de ce qui pourrait être une affaire, mais qui n'en est pas encore une. On est au début de l'été, c'est un sujet assez technique. Si on en reste là, je pense que cette affaire ne laissera pas de traces sur l'image d'Emmanuel Macron. En revanche, si ça devait feuilletonner tout au long, s'il y avait un certain nombre de révélations supplémentaires qui pouvaient être diffusées, oui, ça pourrait aboutir à quelque chose de très gênant pour le président de la République, mais on n'en est pas là. La vraie question, c'est, et d'ailleurs c'est l'un des points qui sont soulevés par les oppositions, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron, à un moment donné, est intervenu directement auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ?
Oui.
Parce qu'évidemment, Uber était, comme un certain nombre de ces grandes entreprises internationales, pour des raisons fiscales ou de travail déguisé, était dans le viseur de la justice et de la répression des fraudes. Ça n'incrimine pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en tant que ministre, il a rencontré des représentants d'une grande entreprise internationale. Ça n'a rien de gênant. En revanche, s'il y a eu ensuite des pressions de la part du ministre de l'économie qu'il était pour qu'un certain nombre d'enquêtes soient abandonnées ou mises sous le boisseau, là, ce serait évidemment autre chose. Mais on n'en est pas là. Mais c'est aussi quand même ce que sous-entendent un certain nombre de personnes qui critiquent Macron dans cette affaire. À suivre. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'impact négatif, catastrophique en tout cas, ou gênant pour le président de la République.
Oui,
on est sur une ligne de crête, mais effectivement, il y a la ligne rouge n'a pas été franchie. Par exemple, quand il a été question de la perquisition dans les locaux, alors je ne sais plus si c'est au siège à Paris ou dans les locaux à Lyon, le lobbyiste en chef de Uber, voire le Travis Kalanick, le PDG d'Uber, envoie un texto à Emmanuel Macron en demandant de savoir ce qu'il est possible de faire et s'il est possible d'intervenir contre cette perquisition. Et derrière, Emmanuel Macron ne répond pas à ce message. Donc, il n'y a pas de faute caractérisée. Après, c'est vrai que comme, comme l'évoquait Stéphane Zumsteg. Là, c'est pareil que pour l'affaire McKinsey, c'est-à-dire que ça interpelle une partie de l'opinion, ça peut choquer moralement, mais légalement et juridiquement, y a, à ce stade, en tout cas, il n'y a pas de faute.
La classe politique s'est emparée évidemment de cette affaire. Hein. Tout le monde s'est bien chargé de critiquer la posture du ministre qui, quelque part, je le disais tout à l'heure, ne peut pas recevoir ou passer son temps à recevoir des ONG ou des syndicats. À un moment donné, le rôle de ministre de l'économie, c'est aussi de faire avancer l'économie. Et je vais rappeler qu'à l'époque, quand Uber a débarqué en France, en décembre 2011, c'est à peu près il y a 10 ans, il y avait 30 000 VTC contre 60 000 taxis en France. Aujourd'hui, il y en a à peu près 18 000 en Île-de-France. Des taxis qui auraient vu aussi leurs revenus chuter de 20% en moyenne, forcément. Et on rappelle qu'il y avait quand même un lobby absolu. Enfin, il n'y avait que les taxis. C'était très, très puissant. Mais le prix de la licence pour acquérir le taxi a aussi diminué depuis, grâce à l'arrivée des VTC. Donc en fait, voilà, c'est le sens de l'histoire, l'ubérisation, c'est assez terrible, mais est-ce qu'on peut y échapper véritablement?
Alors, est-ce qu'on peut y échapper? Ça, je ne sais pas, la question est trop vaste à mon avis, oui. Mais ce qui est vraiment, vous avez raison de parler d'ubérisation de la société, c'était presque une solution à tous les maux il y a une dizaine d'années. C'était formidable, on allait pouvoir trouver du travail, on allait être son propre patron, tout le monde, beaucoup de gens y croyaient. Aujourd'hui, 10 ans après, qu'est-ce qui reste? L'ubérisation de la société qu'on utilise comme expression, elle est plus synonyme presque d'esclavagisme. En fait, les gens deviennent les propres otages. C'est un avis, hein, oui. Il n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais c'est presque un gros mot aujourd'hui de parler d'ubérisation de la société. Alors que, je le répète, il y a 10 ans, c'était quelque chose de formidable.
Vous avez raison, oui, tout
voilà.
À fait.
Rappelez-vous ce qu'on disait, les jeunes de banlieue pourront être leurs propres chauffeurs, leurs propres patrons, ça va régler un certain nombre de problèmes, ça va améliorer l'insertion, ça va réduire le chômage. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'il y a derrière.
Des emplois précaires,
ce sont des emplois précaires, ce qui n'était pas forcément perçu. Quand Uber et d'autres sociétés, on pourrait dire la même chose avec les livreurs de plats à domicile, c'était pas vu comme ça. On faisait sauter les carcans de la société, on limitait les charges administratives. Tout le monde, du jour au lendemain, pouvait devenir son auto-entrepreneur. Aujourd'hui, on voit ça comme plus l'asservissement d'une partie de la classe prolétaire, quelque part. Voilà.
On suivra en attendant les rebondissements, évidemment, dans cette affaire des Uber Files. Merci beaucoup, merci. Stéphane Zumsteg, et merci Alexandre Chauveau. À tout à l'heure, hein, et on est ensemble jusqu'à 20h. On se retrouve dans quelques instants pour le journal. À tout de suite.